Le 11 septembre 1942, sa voisine est venue frapper chez eux. Il habitait à ce moment-là avec son père et sa mère. Ses deux sœurs plus âgées étaient déjà cachées dans la Vénois.
Emmanuelle Baquet, professeure d'histoire et trésorière de l'association Lille FIV 1942, nous témoigne sa rencontre avec Georges Comard et raconte son histoire. Il est le fils de Beyla Comard, une femme juive déportée pendant la Seconde Guerre mondiale.
La voisine leur a dit que la gendarmerie allemande était en train de rafler les juifs et leur a dit de se sauver par l'arrière de la maison. La maman de Georges a répondu que c'était pas possible qu'il prenne une femme seule et que si jamais il la prenait elle, c'était pas grave, elle irait travailler dans un camp. Elle est donc restée dans l'appartement, ce qui fait que Georges a pu fuir avec son père. Et Beyla Comard a été arrêtée, emmenée à la gare de FIV, emmenée ensuite à la caserne d'Ossainte de Malines, puisque c'était le trajet pour les Juifs du Nord. Et ensuite, elle est arrivée à Auschwitz le 17 septembre 1942. Elle a été assassinée à Auschwitz. Et donc, Georges le dit, sa mère les a sauvés, parce qu'en restant dans l'appartement, ça lui a permis de partir. Et ensuite, Georges a été un enfant caché entre 1942 et la fin de la guerre avec ses sœurs dans la Vénois. Son père tenait une cordonnerie, donc c'était une cordonnerie le 25 rue de Valmy, qui est devenue une librairie très connue des étudiants, qui était la librairie Meurat.
C'est avec la participation de différents établissements scolaires que les élèves et leurs professeurs ont pu retracer l'histoire de plusieurs familles juives déportées, issues du nord de la France.
Depuis l'année dernière, nous posons des pavés de mémoire qui s'appellent des Stolpersteine en allemand, littéralement des pierres sur lesquelles on trébuche. Ces pavés de mémoire sont posés devant le dernier domicile d'une victime du nazisme, donc qui peut être un résistant, qui peut être un tzigane, qui peut être un juif, qui peut être un homosexuel. Donc mon rôle dans la pose des pavés, c'est que j'ai trouvé des enseignants avec leurs élèves pour travailler sur des archives qu'on leur fournit, pour reconstituer les parcours de vie de ces personnes pour lesquelles il y a un pavé. Donc ces archives, elles viennent des archives des victimes civiles de Caen, des archives départementales du Nord, des archives municipales. Les enseignants donc travaillent avec leurs élèves avec ces archives qui sont numérisées et écrivent un texte, écrivent une biographie. Et cette biographie, elle est lue par un ou plusieurs élèves à chaque cérémonie de pose.
Jusqu'à aujourd'hui, combien il y a eu de biographies écrites ?
Alors, l'année dernière, 5 biographies, et donc là, au mois de septembre, 16, ce qui fait que fin septembre, il y aura 21 pavés de mémoire à Lille. Il faut savoir que dans la région, il y en a 14 autres qui sont à Douai, et il y en a 4 ou 5, là ma mémoire me fait défaut, à Cambrai.
Donc ce travail de mémoire, il prend du temps. Comment est-ce que vous l'organisez avec les heures de cours ?
Mon défi était d'avoir tous les niveaux, dans le public, dans le privé, dans l'enseignement général et l'enseignement technologique. Donc défi relevé. 10 établissements scolaires allant du CM1, CM2 pour le primaire, jusqu'à des élèves de Sciences Po Lille. Et entre le CM1, CM2 et Sciences Po Lille, on a essentiellement des classes de 3e et des classes de terminale. Et ça s'inscrit dans leur parcours scolaire. Ils abordent la Shoah pour la première fois en CM2. Il revoit l'événement en 3e et il le voit également en terminale. Après, ça peut s'inscrire dans des cours d'EMC, en fait. Évidemment, ils ont travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, ils ont travaillé sur la mise en place du génocide. Et donc, l'intérêt est vraiment d'avoir une approche complètement locale, puisqu'ils travaillent sur des familles lilloises qui parfois sont pas très loin de leur domicile ou qui ont un rapport avec leur domicile. Je peux donner un exemple. On a le collège Immaculée Conception de Bailleul qui a travaillé sur monsieur et madame Radosicki qui sont raflés le 11 septembre 1942, assassinés à Auschwitz. Mais les trois garçons de monsieur et madame Radosicki ont été cachés près du collège de l'Immaculée Conception à Bailleul, vraiment à 400 mètres de leur collège, chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Donc en fait, c'est tout l'intérêt de cette démarche, c'est-à-dire que les élèves ont découvert que trois petits garçons avaient été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, tout près de leur établissement scolaire.
Et c'est quoi un peu les questions qu'ils vous posent, qui sont assez récurrentes ?
La question pour la CM1, CM2, surtout que je les ai vus deux fois et qu'il y a à chaque fois la même question, comment la maman pour laquelle il devait travailler la biographie, Résla Blanc, comment elle a été assassinée. Et donc c'est vrai qu'il y a des CM1, CM2 qui savent, Certains disent, je sais, j'ai entendu parler des chambres à gaz. Et là, il faut faire un peu plus attention avec eux parce que je vois très bien que certains élèves sont choqués, ils ne comprennent pas bien. Ce que je leur explique, c'est qu'elle est arrivée à Auschwitz, elle est assassinée, mais on ne sait pas comment. Elle arrive à Auschwitz, mais on ne sait pas exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne revient pas. Et que donc, elle est morte à un moment donné parce que l'idéologie nazie ne voulait plus que les Juifs vivent.
Comment vous abordez ça? C'est quoi un peu la différence entre les différents établissements et les niveaux?
Alors, avec les plus petits, on va plutôt axer sur les sauvetages qui ont lieu, parce que c'est justement toute l'histoire de ce qui s'est passé le 11 septembre 1942. Le 11 septembre 1942, plus de 500 juifs sont raflés dans toute la région. Lille, Douai, Lens, Valenciennes et d'autres villes. Et ils sont tous amenés à la gare de Lille-Fives, la gare de marchandises. Et là, il y a un sauvetage. Donc un sauvetage exceptionnel, puisqu'il y a 60 personnes environ qui sont sauvés. Nous, on a les noms de 41 personnes, dont une majorité d'enfants. Et avec les plus petits, on va plutôt travailler sur le sauvetage, sur le fait que des personnes n'ont pas trouvé normal qu'on oblige des gens à rentrer dans un train et décident donc de mettre certaines personnes à l'abri, dont des enfants. Donc on est plus sur ces valeurs très positives pour les enfants. Évidemment, on va aussi parler de ce sauvetage avec les plus grands, mais c'est vrai qu'avec eux, de toute façon c'est dans le programme, on voit tout le processus génocidaire de l'arrivée du nazisme jusqu'à la création des chambres à gaz et des fours crématoires. Donc eux, ils sont dans une histoire qui est beaucoup plus pointilleuse, si je peux dire.
Alors que deviennent les biographies une fois qu'elles sont écrites?
Une fois que les pauses seront terminées, donc le 30 septembre, toutes ces biographies vont aller à la mairie de Lille, qui, sur son site internet, les affiche. C'est-à-dire que sur le site de la ville de Lille, il y a déjà une page internet, lutte contre les discriminations, avec un Google Map, avec des repères. Et quand on clique sur les repères aujourd'hui, on arrive sur les 5 pavés qui ont été posés en premier. Et en cliquant sur ces rues, sur le pavé, la biographie s'affiche. Donc bientôt, il y aura les 16 autres repères avec les 16 autres biographies, ce qui permet à tout le monde de savoir exactement à quel parcours de vie correspondent les pavés.
Et est-ce que vous avez des retours des parents, par exemple, des élèves, sur le projet, sur ce qu'ils en pensent ?
Des retours des parents, oui, qui m'ont dit que c'était un beau travail qui motivait les élèves. Des retours des élèves aussi, puisque pour mes premiers élèves qui ont posé les premiers pavés, parmi les 5. Certains élèves ont amené des amis à eux pour leur montrer les pavés et leur raconter l'histoire. Et m'envoyer des photos en me disant, voilà, je suis avec un ami. Ensuite, je me rends compte qu'ils sont attachés à cette façon de se souvenir, puisque j'ai aussi des élèves qui m'envoient des photos de pavés qu'ils rencontrent dans d'autres villes. Par exemple, ils vont à Bruxelles avec leurs parents, ils tombent sur des pavés, ils m'envoient des photos. Et poser un pavé, ce n'est pas seulement un événement qui est ponctuel sur un temps donné et on oublie tout, du tout. Ce que j'ai expliqué aux établissements scolaires quand j'ai proposé le projet, c'était que ça devenait leur projet, en fait. On souhaite que l'histoire de ces familles se perpétue dans les établissements scolaires. Donc, le meilleur moyen est de raviver chaque année l'histoire de ces familles qui ont été déportées. Ce qui fait qu'en avril dernier, on est allé nettoyer, avec les premiers établissements scolaires, les premiers pavés qui ont été posés. Et on a relu les biographies. Et on compte faire ça l'année prochaine, d'aller nettoyer les pavés, parce qu'il faut les nettoyer une fois par an. Donc ils sont en laiton, donc il faut les nettoyer. Et comme ça, ils sont tout propres et ils brillent bien. Et de toute façon, c'est ce qui se fait en Europe, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 pavés en Europe. Et si je prends le cas de Berlin, il y a des comités de quartier ou des écoles qui, tous les ans, donc à Berlin, c'est le 9 novembre, parce que c'est une date importante, vont nettoyer les pavés.
Je pense que vous l'avez entendu, certaines critiques par rapport à la dépose de ces pavés, à Munich, notamment, la ville a refusé de les poser. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je connais le débat. Hein. Certains disent que on marche sur les pavés et que donc ce serait une attitude incorrecte. À côté de cela, d'autres disent qu'en voyant un pavé, ils se penchent dessus Et souvent, justement, ils frottent un petit peu parce qu'ils veulent lire et ils découvrent une histoire. Et là, on est dans un respect. Pour moi, je pense que les familles qui sont concernées, parce que ce sont des familles qui souvent posent des pavés pour les leurs qui n'ont pas de sépulture, puisque leur corps a disparu à Auschwitz, je pense que les familles ont le droit d'honorer leur mort comme ils l'entendent.
Quel message porte ce projet selon vous ?
Poser des pavés, ça permet de se souvenir que des familles juives étaient insérées dans la société lilloise, avaient des amis qui n'étaient pas juifs, avaient une vie, les enfants allaient à l'école, les parents travaillaient, et que du jour au lendemain, à cause d'une idéologie, ils ont été mis à part. Et donc ça permet de se souvenir que de mettre de côté une population peut conduire à une extrémité qui va jusqu'à l'assassinat de cette population. Et je pense qu'il faut rafraîchir la mémoire sur ces événements. Et inscrire leur nom dans le sol, ça permet de ne pas les oublier, puisque l'idéologie nazie, les nazis leur avaient donné un numéro dans le train, un numéro pour ceux qui rentraient dans le camp pour travailler aussi, et voulaient absolument les effacer. Et donc, ce travail de mémoire permet à une partie des citoyens de contrecarrer ce qui était le but des nazis.
Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, ce projet, personnellement, ou en tant que professeur ?
Alors, ça m'apporte un travail qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus ancré dans la réalité, parce qu'on parle de famille, on parle de nom, on parle de métier qu'ils exerçaient aussi. On est dans ce qu'on appelle de la micro-histoire, en fait, et ça permet d'éclairer une histoire qui est beaucoup plus globale. Et ce que je vois, c'est que les élèves sont très intéressés quand on leur explique ce qui s'est passé pas très loin de leur établissement scolaire. Et je ne parle pas seulement de la Shoah. On peut parler de la résistance, on peut parler d'autres ouvriers étrangers qui sont venus d'Espagne, du Portugal, venir travailler dans des usines et qui ont participé à la société française.
Habitants du Nord, regardez où vous posez les pieds, vous y découvrirez peut-être une histoire de vie surprenante. Un reportage réalisé par Chloé Lagnès pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.